30 août 1967. Après 11 jours de traversée, le Frédérico C, bateau de croisière en provenance de Cannes, accoste à Port Everglades, sur la côte de Floride. Dans leur petite cabine, le couple se prépare. Un peu plus de 4 kilos d'héroïne chacun, scotchés sur leur corps.
Au pied de la passerelle, deux agents des douanes passent en revue tous les passagers. La jeune femme passe, rien n'a déclaré. L'homme qui la suit est suspect. La quarantaine, crâne légèrement dégarni. Il marche d'un pas assuré, mais sa carrure le trahit. Son dos est faussement bossu. Arrivé au niveau des douaniers, il panique et se met à courir à toute allure en direction du quai. Trop tard. Quatre hommes armés le plaquent au sol.
S'enfuir, comme si de rien n'était. Ne pas se retourner. Cacher la drogue quelque part et revenir sur le bateau pour récupérer son précieux passeport français. Mais, au pied du Frédérico C, la douane l'attend de pied ferme. Elle est en état d'arrestation.
C'est la plus grosse prise sur le territoire américain. Une dizaine de kilos d'héroïne. Valeur estimée, 9 millions de dollars. L'homme appréhendé est un Suisse, déjà connu des services de police. Sa compagne, une certaine Paulette Fallet, n'a pas de casier judiciaire. Mais ses empreintes digitales trahissent sa véritable identité. C'est Josette Bauer, recherchée depuis 3 ans par Interpol. Genève, nuit du 9 novembre 1959. Les agents de police s'attroupent au numéro 47 de la rue de Lyon. 30 minutes plus tôt, ils ont été appelés par les voisins, alertés par le bruit d'un coup de feu. Sur le palier de la maison, à quelques mètres seulement de la porte d'entrée, un homme gît face contre le gravier. C'est le propriétaire des lieux. Léo Geyser, un riche industriel qui dirige sa société, la Mechanix. Il y a beaucoup de sang. Monsieur Geyser a été battu. Personne n'a vu la scène. Autour de son corps, peu d'indices. Une montre bracelet, un pistolet d'alarme, une lampe de poche, et un peu plus loin, une matraque artisanale. Un manche de bois garni de clous et lesté de plomb. C'est tout. C'est peu pour une enquête.
Richard Bauer, 25 ans. Un homme sans charisme, replace ses larges lunettes sur son nez. Sans elles, il ne voit pas à 2 mètres. Il rentre chez lui, au 8 avenue Antoinette, dans la commune de Verrier. La Villa Pincha, c'est là qu'il vit avec sa jeune épouse, Josette, 21 ans. Sa chemise est tachée de sang. Il reste impassible. Ce n'est pas un émotif. Josette n'est pas à la maison. Elle s'enivre encore dans l'une des nombreuses boîtes de nuit de Suisse. Dans la bagarre qu'il opposait à son beau-père, Richard a reçu un coup à l'œil. Sa paupière est toute violacée. Vers 3 heures du matin, sa soirée terminée, Josette rentre à la Villa Pincha. Son mari est dans la salle de bain. Il nettoie ses blessures. Le jeune homme lève les yeux vers sa femme d'une voix monotone. Il souffle simplement « Je me suis battu avec ton père, nous avions besoin d'argent. C'est fait. »
Dès le lendemain, les sordides détails du crime sortent dans la presse. Sur les lieux du drame, aucune trace d'effraction, aucun vol. Léo Geyser n'a pas été victime d'un crime crapuleux. Son visage a été défiguré par une large entaille. Le quinquagénaire a reçu près de 7 coups de poignard, des coups puissants. Son agresseur lui en voulait personnellement.
Le 9 novembre, un policier est à la porte de la Villa Pinchat. Richard se barricade dans la salle de bain. Josette doit faire face seule. Elle est nerveuse, mais elle ne dira rien. Richard ne peut pas aller en prison. Leur petite fille de 3 ans a besoin de ses deux parents. Elle ouvre. L'agent, visiblement mal à l'aise, prend une profonde respiration. Il annonce à Josette Bauer le décès de son père. Josette tressaille de nervosité. Ce père, Léo Guesser, voilà 5 ans qu'elle ne l'a pas revu. Depuis son mariage avec Richard, un mariage que son paternel n'approuvait pas. La nouvelle annoncée, le policier tourne les talons. Josette referme sa porte d'entrée, reprend ses esprits, saisit les habits ensanglantés de Richard et déchire, monte dans sa voiture de sport et les éparpille sur la route de Suisse. Personne ne doit savoir.
Le jour des funérailles, Richard Bauer se charge de l'oraison funèbre. Un hommage déchirant, qu'il termine en promettant une récompense généreuse à quiconque fera avancer l'enquête. Une enquête bien compliquée, en vérité.
Depuis que son père est mort, Josette a hérité de toute sa fortune. Une assurance vie de 18 000 francs, plusieurs milliers de francs en cash, la propriété du 47 rue de Lyon et les rênes de l'entreprise, qu'elle confie immédiatement à son mari. Richard est fou amoureux de sa femme, prêt à tout lui céder, quitte à dilapider l'héritage de la famille Bauer et à s'endetter. Cette vie, Josette la rêve depuis toute petite. Elle a épousé Richard pour son argent. Voiture de luxe, maison cossue, week-end en France, chevaux, cours de pilotage, restaurant. Josette obtient toujours ce qu'elle veut. En réalité, les Bauer n'ont rien en commun. Josette a plusieurs amants et son mari laisse faire. Pendant que la police patauge, le jeune couple mène la grande vie. Voyage sur la Côte d'Azur ou au ski à Davos, dîner mondain. Depuis la sombre nuit du 9 novembre 1959, le couple n'a jamais reparlé du crime.
Un an et demi passe et les enquêteurs piétinent. La vie de Léo Guesser est analysée dans ses moindres détails. Il avait une vie sentimentale tourmentée. Divorcé 2 fois, il s'apprêtait à épouser sa nouvelle compagne. Sa fiancée est interrogée. Il n'y a rien à creuser de ce côté-là. Du point de vue des affaires, rien à signaler non plus. Au total, 100 de pistes sont explorées. Jusqu'à ce qu'une question cruciale se pose. À qui profite le crime ?
Un jour de 1960, les enquêteurs se présentent chez les Bauer. Question basique. Que faisiez-vous le soir du crime ? Josette était de sortie. Richard l'attendait devant la télé. Avec qui étiez-vous ? Josette était avec son amant, Gérard Paget, alibi solide, attesté par les nombreux amis de la jeune femme. Richard était seul, version plus compliquée à vérifier. Auriez-vous pu tuer votre père pour toucher l'héritage ? Josette s'offusque. La fortune de son père ? Elle n'en a pas besoin. Son mari gagne déjà très bien sa vie.
Les réponses de Richard et Josette ne sont pas convaincantes. La maison est inspectée. Dans un placard, l'un des policiers trouve un balai dont l'extrémité a été coupée. Un morceau de bois qui pourrait correspondre à la matraque artisanale retrouvée sur les lieux du crime. D'expertise en contre-expertise, il apparaît que le manche de la matraque correspond à 100% au morceau manquant du balai trouvé chez le couple. Après 17 mois d'enquête, la police suisse a enfin une preuve matérielle pour incriminer le couple. Il y a peu de doute. Sans alibi, Richard est forcément coupable. Mais Josette est-elle complice ?
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Le 2 avril 1959, Richard Bauer est arrêté. Josette n'est pas là. L'insouciante achète un cheval aux enchères dans la ville d'Avenches. La police attend son retour. Elle est arrêtée le soir même. Le couple est envoyé à la prison Saint-Antoine. Fini le luxe de la belle villa, les restaurants et les soirées dansantes. Entre les quatre murs de sa cellule, Josette n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle n'a accès ni à la presse, ni à un avocat.
Les journaux s'emballent. L'opinion publique est sous le choc. Les Bauer sont présentés comme un couple diabolique d'enfants gâtés, des riches de la haute, prêts à tuer pour de l'argent. La presse s'en prend particulièrement à Josette, décrite comme une femme envoûtante, manipulatrice et capricieuse. À Saint-Antoine, Richard Bauer avoue son crime rapidement devant les enquêteurs. Il a tué son beau-père parce qu'il avait besoin d'argent. De l'argent pour maintenir le niveau de vie de sa femme. Mais il le jure, il a agi seul. Josette n'en savait rien.
La jeune femme nie en bloc. Elle n'a rien à voir dans le meurtre de son père. Poussée par les enquêteurs, elle finit par avouer. Oui, elle n'a pas dénoncé son mari. Oui, Richard avait déjà mentionné ce projet, mais elle ne l'avait pas cru. Mais c'est vrai, elle a aidé à camoufler les preuves. Confronté pendant une heure, le couple maintient ses déclarations. Richard a agi de son propre chef, seul. Josette n'y est pour rien.
Quand un couple est accusé, quelle est la part de responsabilité de chacun? Pour la presse, il n'y a pas de doute. Josette Bauer est l'instigatrice du mal. Elle est le mauvais génie de ce mari effacé. Une sorcière avide de luxe, une dévergondée, une femme un peu trop libre pour l'époque.
Richard et Josette se rencontrent en juillet 1953. Elle a 17 ans, il en a 21. C'est une jolie jeune fille, brune, mince, les traits fins, un visage de poupée, le nez retroussé et de grands yeux hypnotisants. Une jeune fille bien élevée, très intelligente, capable de parler trois langues, le français, l'anglais et l'allemand. Quelques mois plus tard, contre l'avis de leurs parents, le jeune couple se marie et donne naissance à une petite fille, Dominique. Richard est intimide, discret. Josette est une pile électrique, hyper séductrice. Ils n'ont rien en commun. Leur vie conjugale est une catastrophe. En quatre ans de vie commune, Richard dilapide tout son argent pour elle. La jeune femme ne se pose aucune question. Peu lui importe d'où vient l'argent, tant qu'il y en a. Richard, à court de monnaie, emprunte à gauche, à droite. Il s'endette. Il s'accroche, hypothèque la maison. Il n'a qu'une obsession, satisfaire sa femme. Il le sait. Sans argent, plus de Josette. Elle trouve son plaisir dans les bras d'autres hommes. Alors, il bâtit son plan. Tuer Léo Guesser pour récupérer l'héritage. Josette lui rit au nez. Mais il est sûr de lui. Se rend à Marseille pour acheter un revolver et un poignard de parachutiste. Pendant ce temps, Josette bâtit folle avec l'un de ses amants.
La grande vie semble bien loin pour les amants Bauer. Dans l'attente du procès, placée en détention préventive à Saint-Antoine, Josette sombre dans la dépression. Le 1er avril 59, Josette Bauer tente de se pendre au barreau de sa cellule avec ses draps. Heureusement, une gardienne arrive juste à temps pour l'en empêcher. Au vu de son état psychique, la jeune fille de 22 ans est envoyée dans une clinique psychiatrique jusqu'à l'ouverture du procès, le 10 octobre 1961.
Devant le palais de justice, la foule gronde. Elle est la femme la plus détestée de Genève. Josette marche, la tête haute derrière son mari. Richard, lui, est prostré. Sous ses épaisses lunettes, il semble absent. Elle est amaigrie, pâle. Difficile d'imaginer que 3 ans plus tôt, ce couple conduisait les plus belles voitures dans les plus beaux endroits. Depuis, ils ont passé près de 900 jours en prison. Josette est hors du temps, complètement shootée par les antidépresseurs. Le public lui crie sa haine, demande la peine de mort. Ahurie, elle s'assoit sur le banc des accusés. Dans sa tête, elle se le répète en boucle, elle n'a rien à se reprocher. Elle est innocente.
C'est un procès hors norme, attendu par toute la Suisse. Les Bauer sont une énigme. À eux deux, ils représentent tout ce que la société genevoise déteste. Des gens avides d'argent, des bourgeois, des oisifs, des paresseux. Dans la presse, Josette est comparée à une sorcière. C'est une traînée, qui plus est mère de famille. Quelle honte! Le portrait de Richard est plus complaisant. Il semble trop bon pour avoir agi seul. Richard Bauer est accusé de crime avec préméditation. Il l'assume. En revanche, face à la cour, Josette Bauer est présentée non comme complice, mais comme co-auteur du crime, ce qu'elle nie farouchement.
À la barre, la vie frivole de Josette est déballée. On évoque ses sorties, ses amants, ses activités un peu trop bling-bling. Elle baisse la tête. La salle guette tous ses faits et gestes. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle entend les murmures réprobateurs du public. C'est son procès à elle. Au-delà de l'assassinat de son père, on lui reproche son goût pour la luxure.
Face au jury, 11 hommes et une femme, le procureur général, M. Egger, demande à ce que les accusés soient déclarés coupables à parts égales. Après un procès de 3 jours, tous les témoins ont défilé à la barre. Ils ont raconté les dépenses colossales du couple et la légèreté de madame. Différents experts psychiatres ont rendu leurs conclusions. Richard souffre d'une paralysie émotive. Josette est névrosée depuis l'enfance, causée par le manque d'affection de ses parents. Le jury va pouvoir rendre sa décision. 4 heures de délibération plus tard, Josette et Richard sont tous les deux reconnus coupables de l'assassinat de Léo Gesser. Il prend 15 ans de prison. Elle est condamnée à 8 années derrière les barreaux.
Elle s'effondre. Elle ne s'y attendait pas. Son avocat ne l'avait pas préparée. C'est un choc pour la jeune fille de 23 ans. 8 ans ? C'est une éternité à cet âge-là. 3 jours plus tard, la mère de Richard meurt d'une crise cardiaque. Au même moment, de retour dans sa prison, Josette tente une seconde fois de se suicider. Elle est sauvée à temps, de nouveau internée dans une clinique psychiatrique. Josette Bauer multiplie les recours pour prouver son innocence. Tous sont rejetés. Rebelle et obstinée, elle n'a plus qu'une idée en tête, retrouver sa liberté.